Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Ce mois de novembre qui continue, on est chanceux, hein? Très beau, très ensoleillé. Mois de novembre, santé des hommes, et je poursuis cette série d'entrevues sur la santé des garçons que j'aime bien. Et ces garçons, ces jeunes garçons surtout, qui même aujourd'hui en 2015, ont généralement plus de difficultés à exprimer leurs émotions, à demander de l'aide. C'est du moins ce que révèle cette organisation bien connue Jeunesse J'écoute, qui après 25 ans de service a été forcée de constater que les garçons représentaient seulement 20 % de leurs appels. Donc, Coin des gars, c'est un portail web qui est destiné aux garçons âgés entre 14 et 18 ans, qui est bon, un endroit pour qu'ils se réunissent, pour qu'ils discutent, afin qu'ils puissent demander de l'aide lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Et tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Alain Johnson, lui, directeur des services cliniques, oui, chez Jeunesse J'écoute, sera là pour nous en parler davantage. Et puis, on parle d'amour aujourd'hui, hein? L'amour, toujours l'amour, celui que l'on cherche, celui qu'on a perdu, celui qu'on tente de garder vivant par-dessus tout, l'amour qui prend beaucoup de place dans nos vies, et qui est parfois complexe, voire parfois pour certaines personnes douloureux. Les relations amoureuses, c'est souvent là pour que l'on s'épanouisse. C'est essentiel d'ailleurs à notre épanouissement, mais en même temps, souvent source d'incompréhension, de frustration. Et on se demande aujourd'hui pourquoi, avec le psychologue Marc Pistorio, dans son nouveau bouquin « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es », il fait un lien entre les styles d'attachement qui pourraient s'établir, se construire dès la naissance, là, lorsqu'on est tout petit enfant, avec nos parents ou autres adultes signifiants, et les relations amoureuses que l'on vivra lorsqu'on sera rendu à l'âge adulte. Donc, on lui posera ces questions. L'amour, pourquoi toujours l'amour? Marc Pistorio, je voulais vous dire, et vous allez voir le lien, j'ai vu le film La guerre des tucs hier, mm-hmm. Vous savez, en version 3D, et j'ai envie de vous demander l'amour. L'amour, c'est pas une raison pour se faire mal. Hein? Ouais. Parce que oui, souvent, on se dit pourquoi j'ai mal suite à cette relation amoureuse-là? Pourquoi je suis insatisfaite? Ben oui. Et ça pourrait découler de ces relations que l'on crée avec nos parents ou d'autres adultes lorsqu'on est tout petit.
Oui, absolument. En fait, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les premières relations d'intimité sont en fait celles que l'on vit avec nos parents, avec notre mère évidemment, première figure d'attachement, et avec le père aussi, particulièrement dans les deux premières années de vie, parce que c'est vraiment une période où tout l'hémisphère droit en fait du cerveau, celui des relations non verbales, celui de l'inconscient, celui des émotions, de la gestion des émotions, ce cerveau-là se développe de façon exponentielle au cours des deux premières années. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise que la recherche montre, notamment les nouvelles recherches en neuropsychologie, montre qu'il y a un impact, un fonctionnement du cerveau qui est modifié selon les premières expériences d'intimité. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, en fait, lorsqu'on devient adulte, eh bien, on est comme prédisposé finalement à aller vers certaines personnes et à choisir certains partenaires amoureux. Donc, il y a un lien qu'on ne connaissait pas exactement auparavant, qu'on soupçonnait, nous, les cliniciens, dans nos bureaux, mais qu'on peut maintenant montrer vraiment avec des images en temps réel dans le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est assez fascinant. Et ça veut dire aussi que finalement, si on comprend mieux comment ça se passe dès le début, eh bien, on va pouvoir ensuite aller vers des relations amoureuses qui sont moins souffrantes, moins des répétitions douloureuses à n'en plus finir pour mieux s'aimer finalement et mieux aimer.
Donc, la façon dont on a été aimé par notre père, notre mère, mm-hmm. pourrait prédire le type de partenaire amoureux qu'on serait porté de choisir à l'âge adulte.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un impact. En fait, il y a des gens qui, vers lesquels on va aller plus spontanément. Si on a été un petit enfant très sécurisé, hein, on comprend que cet enfant-là a une belle estime de soi, part à l'exploration, à la découverte du monde avec moins de doutes, et il est rassuré perpétuellement par ses parents lorsqu'il vit des insécurités. Mais, et donc, on comprend bien que cet enfant-là qui part avec ce sentiment d'une valeur de lui-même, eh bien cet enfant-là, il va spontanément ensuite dans la vie aller vers des gens sans douter, aller vers des gens avec une plus grande liberté.
Donc sécurisé, premier style d'attachement. Oui. Vous parlez de trois en tout. Il y en a peut-être plus.
Il y en a quatre au total. Il y en a un que j'ai moins traité dans le livre sur les relations amoureuses parce que c'est un style d'attachement que l'on nomme désorganisé, qui est beaucoup plus lié aux pathologies des enfants qui sont issus de milieux plus abusifs sur le plan physique, sexuel, des parents qui ont des problématiques de drogue, d'alcool. Je me suis moins intéressé à cette catégorie-là parce que c'est aussi la catégorie qui concerne une moindre grande population.
Ouais.
Hein, alors que les trois autres, au contraire, vont vraiment déterminer trois tendances dans lesquelles on se retrouve tous, finalement.
Donc, sécurisé, anxieux également, ce serait un autre style d'attachement.
C'est ça. Donc, un style d'attachement anxieux, concerne vraiment les enfants qui ont été, en fait, insécurisés dans leurs besoins affectifs parce qu'ils étaient avec des parents, des mères, par exemple, plus anxieuses, qui avaient du mal à les laisser aller, qui ramenaient beaucoup plus l'idée de « le monde est dangereux, attention », et donc qui limitaient les expériences de l'enfant dans la petite enfance. Et ces enfants-là ont intégré l'idée que s'ils sont loin de leur mère, s'ils sont loin de leur père, le monde est un peu plus dangereux et donc ils sont plus inquiets. Ce sont des enfants qui restent collés à leurs parents. Ils vont s'amuser près de leurs parents, mais près des pieds de leurs parents, près des jambes de leurs parents. Et ce sont des enfants qui, dans la vie, vont considérer que seuls, ils ont moins de ressources et qu'ils ne peuvent être en sécurité que lorsqu'ils sont au contact de l'autre. Dans la relation amoureuse, eh bien, ça va donner toutes ces personnes qui sont plutôt dans des relations fusionnelles.
Un peu peau de colle.
Un peu beaucoup. Donc, des amoureux qui vont dire « Mais pourquoi tu as besoin d'avoir d'autres amis? Pourquoi tu veux sortir sans moi? Regarde ensemble comme on est bien tous les deux, on a besoin de personne, on a besoin de rien d'autre. » Et ce sont des gens qui, dans la solitude, se meurent un petit peu. C'est-à-dire que leur monde intérieur s'écroule, ils sont mal, ils sont anxieux. Et l'anxiété dont on parle, c'est une anxiété d'abandon. Donc, ce sont des personnes qui, seules, ont le sentiment d'être abandonnées et ont peu de contact avec leur individualité.
Maintenant,
autre style
évitant,
oui.
Qui est l'inverse de l'anxieux.
Qui est en fait le pendant, on a envie de dire. Hein, et là, ce sont des enfants qui, par contre, ont été élevés par des parents qui étaient plus froids, plus distants, qui valorisaient lorsqu'ils étaient heureux, lorsqu'ils étaient pleins de joie, et qui étaient dérangés lorsque l'enfant demandait de l'aide, lorsque l'enfant pleurait. Des parents qui, typiquement, vont dévaloriser les pleurs et l'expression des émotions.
Ouais.
Et ces parents-là, en fait... on fait en sorte que finalement l'enfant, alors qu'il n'était pas sécurisé dans ses besoins affectifs, a décidé inconsciemment, bien moi dans la vie je comprends qu'on est mieux de s'organiser tout seul. Ce sont des enfants qui deviennent hyper autonomes, hyper indépendants, et dans les relations amoureuses plus tard, ce sont les personnes avec lesquelles on a du mal à entrer dans l'intimité. Elles trouvent que les autres sont intrusifs, que les autres les étouffent. Ce sont des hyper indépendants, des hyper autonomes qui s'organisent tout seuls et qui ne demandent que très peu d'aide.
Ouais. Donc, ils ont peut-être des difficultés à garder des relations amoureuses ou du moins peut-être même à entrer en relation amoureuse.
Oui, en fait, ils vont entrer dans les relations amoureuses, mais lorsqu'il s'agit de passer à une plus grande intimité, lorsque le partenaire ou la partenaire leur dit « tu sais, j'aurais besoin de telle chose, ou j'aurais besoin de plus de présence, ou plus d'aide, ou plus de soutien », tout de suite, ils se sentent menacés et à ce moment-là, ils mettent de la distance. Ou alors, ils vont rester dans les relations à long terme, qui sont des relations de distance, particulièrement avec un autre évitant, par exemple, où là, il y a la garantie qu'il n'y aura pas d'intimité et pas trop de demandes, puisque l'autre est comme moi.
Est-ce que des gens qui aiment entretenir des relations avec des gens déjà mariés, déjà en couple, donc être l'amant ou la maîtresse, ça pourrait révéler un style d'attachement évitant?
Ça pourrait. En fait, ça pourrait à ce moment-là parce que ils sont sûrs que l'autre n'est pas disponible par définition. Mais ça pourrait être aussi un style d'attachement plus anxieux sociaux où ils réclament à tout prix une proximité qu'on leur refuse.
OK. Mais comment on fait pour pouvoir s'identifier en tant qu'amoureux? Parce que là, ça semble pas si évident que ça, Marc.
Ben oui. En fait, ce que j'ai fait, et c'est vraiment toute la première partie du livre, c'est vraiment de décrire les styles d'attachement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu énormément de recherches. D'ailleurs, avant ce livre-là, il y a eu une recherche doctorale sur les couples québécois. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu et j'ai repris dans la recherche, en fait, toutes les caractéristiques typiques que l'on décrit pour chacun des styles. Mmh. Et au fond, l'idée, c'est de s'informer, de lire de façon éclairée. Et dans les styles qui sont décrits, on se retrouve tous, en fait. Ouais. À ce moment-là, une fois qu'on a identifié son style, on identifie aussi quels sont éventuellement les enjeux que l'on a par rapport à son propre style. Et l'idée, c'est aussi, si on est en couple, d'identifier le style du conjoint. Et dans la deuxième partie du livre, toutes les combinaisons de styles d'attachement sont décrites avec les enjeux et les points forts également. Et puis, au fond, toute l'idée, c'est la troisième partie du livre, c'est d'aller vers des outils pour développer une relation plus sécurisante, parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est ce que montre en fait la recherche.
Oui, tout ça est réversible. Tout ça peut être changé en thérapie, d'une part, mais il y a d'autres façons où l'on peut s'exercer avec le partenaire amoureux à changer nos comportements.
Oui, tout à fait. À partir du moment où on développe en fait cette aptitude à identifier son propre style d'attachement, à identifier celui du conjoint et à travailler ensemble à diminuer tous les mécanismes de défense qui sont « je défends toujours ma personnalité, ne dis jamais que je me trompe, etc., etc. »
Je suis comme ça, et prenez-moi ainsi.
Oui, et les phrases typiques de l'ordre « moi, je suis tel que je suis, si ça ne te convient pas, toi, va-t'en » ou « vas-y, toi, changer ou va en thérapie parce que moi, je n'ai pas de problème. » Ça sont des attitudes très défensives, alors que pour faire évoluer la relation de couple, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, d'être dans l'écoute, d'accepter que l'autre nous renvoie de soi une image qui n'est peut-être pas celle qu'on souhaiterait, mais d'accepter sa vulnérabilité pour pouvoir changer et pour pouvoir évoluer. Ça ne fera jamais partir personne que justement d'être dans la vérité et dans l'authenticité. Ce qui cause des problèmes, c'est quand les gens restent dans des positions que moi, je qualifie de psycho-rigides, en fait.
Et j'imagine que c'est cette attitude-là qui amène à répéter ces modèles-là d'amour.
Absolument.
Ce que je disais tantôt, l'amour source de frustration, de conflit qui nous rend insatisfaits. C'est ça, en fait, c'est de répéter l'histoire.
Absolument. Écoutez, si vous avez plusieurs partenaires et qu'ils ne se connaissent pas et que tous vous reprochent à peu près les mêmes choses, on peut penser quand même que le problème ne vient pas exclusivement d'eux, mais aussi qu'on a relevé chez vous des dimensions qui méritent d'être changées, d'être travaillées. Toute l'énergie qu'on met à rester le même quand on a des problèmes nous contraint et nous condamne en fait à l'échec amoureux, alors que l'attitude doit être exactement l'inverse. Mmh. C'est peut-être douloureux parfois qu'on nous décrive en fait selon nos failles, selon nos souffrances, mais justement, l'attachement n'est pas culpabilisant, puisque ce que j'essaie de dire et de montrer dans le livre, justement, c'est on tient maintenant des explications plus claires sur ce qui fait qu'on est qui on est sur le plan de l'attachement amoureux. Ce qu'il faut retenir au lieu de s'en défendre, c'est au contraire qu'il y a des choses à faire. Et plus on reste ouvert, et plus on peut changer.
Vous avez dit le mot culpabilisant. J'imagine aussi que l'idée n'est pas de culpabiliser notre père ou notre mère, de
bien
dire
sûr.
Tu m'as trop aimé, tu m'as trop couvert ou tu as été trop froid, trop distant avec moi. Voilà, là, je ne suis pas capable d'aimer et d'être aimé.
Non, c'est très bien que vous disiez ça parce qu'au fond, l'idée, c'est au lieu d'essayer de culpabiliser, d'accuser, de créer des histoires avec ses parents et de se victimiser et d'avoir de la pitié pour soi. Moi, le ton du livre, c'est exactement l'inverse, c'est la responsabilité. Voici de façon réaliste comment j'ai été aimé. Mes parents avaient certainement des difficultés s'ils n'ont pas pu bien m'aimer. Ils m'ont aimé, mais peut-être pas à la mesure de mes besoins. Maintenant, considérant ce réalisme-là, considérant que j'élève mon champ de conscience, que je comprends mieux d'où je viens, voici ce que je peux faire pour la suite. Donc, être centré sur les solutions, être centré sur les actions et surtout sur la conviction qu'on peut être plus heureux si on est plus ouvert à mieux comprendre qui on est. Ouais. Hein? On ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas.
Ouais. Et l'amour aussi, c'est celui que l'on a envers soi-même aussi. Il faut s'aimer suffisamment pour être capable d'envisager ces changements-là.
Tout à fait. Mais je pense que de toute façon, cette démarche-là, telle que je le disais, hein, d'élever son champ de conscience, de voir mieux qui on est et d'où on vient sur le plan de l'amour qu'on a reçu, c'est déjà en fait un engagement vis-à-vis de soi, c'est celui du changement, c'est celui de l'optimisme et de l'espoir en fait. Hein. Je pense qu'on a tous la capacité d'améliorer sa condition.
Oui. Le style d'attachement pourrait-il être lié, Marc, à notre personnalité également? Je me dis, moi, mon frère, on a été élevé par les mêmes parents, mais on pourrait développer des styles d'attachement différents de par notre personnalité.
Tout à fait. En fait, il y a deux éléments de réponse. Le premier, hein, c'est qu'on se rend compte que au départ, il y a une génétique. Hein, on est avec certaines sensibilités, avec une certaine personnalité qui va se façonner en fonction de l'environnement familial dans lequel on est élevé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, on pensait que le programme génétique se développait et puis qu'on était ce qui était déterminé dès le départ. Aujourd'hui, notamment avec l'attachement, on se rend compte que ce style d'attachement est environnemental et qu'il va influencer le fonctionnement génétique. Donc, par exemple, le fonctionnement de votre cerveau et de vos choix, de vos comportements, de vos pensées. Hein, donc, il est important de savoir aussi que si on change d'environnement, si on évolue dans un environnement plus sécurisant, qu'on s'offre soi-même à l'âge adulte, eh bien, on va pouvoir modifier ce fonctionnement. Et puis, pour les parents, le conseil que je donne toujours, hein, c'est celui de... À chaque enfant devrait naître une éducation différente parce que les enfants ne sont pas les mêmes. Plutôt que de plaquer une même éducation à tous les enfants, chaque enfant a des besoins particuliers. Si les parents les identifient, ils vont pouvoir aider cet enfant à devenir quoi ? Mais finalement, la meilleure version de lui-même.
Oui. Et bien sûr, on tend à développer cet attachement qui est sécurisant. Est-ce qu'il y a des amours impossibles, Marc Pistorio? C'est-à-dire, style anxieux, style évitant, ça ne pourrait jamais fonctionner?
En fait, on se rend compte quand même que tous les styles d'attachement peuvent donner lieu à l'évolution vers un attachement plus sécurisant. Là où, à mon sens, il n'y a aucune possibilité d'évolution, c'est lorsque l'un des deux remet en question la relation de couple dans des demandes qui sont légitimes et que l'autre lui refuse, en fait, tout changement.
Ouais.
Si un partenaire dit « je suis malheureux » ou « malheureuse » parce qu'on a souvent des conflits à tel propos et que l'autre ne s'arme pas à ce moment-là d'écoute en lui disant « Ok, essayons de voir quelle est notre part de responsabilité respective, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la suite ?» Si on n'a pas cette ouverture, à ce moment-là, il n'y a aucune évolution possible. L'autre difficulté d'évolution aussi, c'est lorsqu'il y a une incompatibilité profonde au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs par rapport à l'éducation des enfants, au niveau, par exemple, des relations d'intimité. Si les valeurs sont trop éloignées, les valeurs par rapport à l'investissement dans la carrière, les valeurs par rapport à l'autorité
à
exercer, à la famille, par rapport à la sexualité, hein, des gens qui veulent une sexualité, l'autre partenaire ne le souhaite pas. Si l'incompatibilité au niveau des valeurs profondes est grande, à ce moment-là, il n'y a aucune réussite possible dans le couple, même si les gens s'aiment. L'amour, en fait, ça ne suffit pas dans un couple. C'est un bon prérequis, mais ça n'est pas suffisant.
Assez inspirant tout ça, assez intéressant. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Ça ouvre plein de portes, ça, Marc.
Mais c'est l'objet du livre, c'est d'ouvrir les discussions dans les relations de couple.
Oui, et de se dire que tout est possible, mais avec un peu plus que l'amour, de l'écoute et beaucoup de respect. Vous êtes psychologue également, conférencier et auteur de ce livre-là qui vient de sortir chez Édito. Marc Pistorio, merci beaucoup, ça a été un grand plaisir.
Merci à vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Alain Johnson, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute et là pour nous parler de ce portail web qui s'intitule Coin des gars. Ça a été lancé le 8 octobre dernier avec le soutien de la Fondation Movember. Ça s'adresse à des garçons qui sont âgés entre 14 et 18 ans. Ça vient de quel constat, Alain Johnson, de créer ce portail-là?
Oui, ben écoutez, je voudrais, c'est au départ, hein, c'était l'invitation de la Fondation Movember qui voulait élargir un petit peu son mandat pour inclure là, toutes les questions de santé mentale, autant chez les hommes que chez les jeunes hommes et les adolescents. Ce qui nous a poussé, dans le fond, à embarquer dans cette aventure-là, c'est, dans le fond, le constat qu'à Jeunesse J'écoute, depuis 25 ans que nous offrons des services aux jeunes, ce qu'on constatait, c'est, je dirais deux choses, c'est que à peu près 80 % des jeunes qui nous contactent, ce sont des filles pour malheureusement seulement 20 % des garçons, et que les garçons ont plus de difficultés à aborder, dans le fond, leurs blessures, leur détresse, et en même temps, on observe dans la société que malheureusement, certains garçons ont des comportements plus à risque. Donc, on s'est dit, c'est une clientèle qui vit. Bon, c'est sûr que les gars vivent des choses, vivent des drames, vivent des difficultés, grandes ou petites, et on a la difficulté à les rejoindre. Mm-hmm. C'est vrai lorsqu'on parle de santé physique ou aussi de santé mentale. Alors, on s'est dit, dans le fond, comment, en collaboration avec la Fondation Movember, on pourrait peut-être créer un outil différent pour les rejoindre et les apprivoiser dans l'espoir que plus de garçons, lorsqu'ils en auront besoin, puissent nous contacter.
C'est intéressant ce que vous dites, les apprivoiser, parce que pour le faire, il faut apprendre à les connaître aussi. C'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leurs craintes, qu'est-ce qui les interpelle, ces jeunes garçons-là?
Tout à fait. Et je voudrais tout au long, dans le fond, durant toute la première année, c'était, dans le fond, la conception du portail, le coin des gars. Alors, on a fait énormément de rencontres. On a rencontré des jeunes, on a fait des focus groups, on les a consultés pour essayer de voir, dans le fond, quelles sont leurs appréhensions, quelles sont leurs craintes, qu'est-ce qui fait que les services qui existent ne les
touchent pas. Non, oui.
Et en même temps, on a posé des questions. Alors, par exemple, au niveau des couleurs, au niveau du visuel, au niveau du langage, pour créer, dans le fond, un espace dans lequel les gars vont peut-être plus se reconnaître. Je vous donne juste un exemple. Hein. Si on demande à une jeune fille « Comment tu te sens actuellement? » On vient d'ouvrir une porte pour en discuter. Si on pose la même question de cette façon-là à un gars, je suis pas certain qu'on ouvre la porte aussi grande. Les garçons sont plus dans l'action que peut-être dans l'émotion, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion. Un intervenant peut parler à une fille alors qu'un garçon va peut-être utiliser plus des mots comme un coach, un allié. Donc, tout ce travail de consultation a été fait pour, on l'espère, créer, dans le fond, un portail où les gars vont peut-être se sentir plus dans leur environnement, si vous voulez.
Est-ce que le portail a des spécifications différentes? Je sais que les garçons sont invités à clavarder.
Oui.
Parce que peut-être c'est plus facile pour eux d'écrire que de parler directement?
Je vous dirais, dans le fond, le site, bon, on s'adresse à tous les garçons. Là, c'est sûr que notre clientèle cible est plus les 14-18 ans, mais un garçon plus jeune ou jusqu'à 24-25 ans peuvent utiliser nos services. On a fait la promotion davantage du clavardage, mais en même temps, il n'y a rien qui empêche un gars qui voudrait parler à un intervenant de pouvoir nous rejoindre en tout temps. Parce que malheureusement, actuellement, compte tenu de nos moyens, le temps où le clavardage est ouvert est quand même limité en soirée. Alors, ce qui fait que si, en dehors de ces heures-là, un gars veut parler, veut qu'on l'écoute, bien, il pourra le faire en tout temps, évidemment, par téléphone, aussi bien en français qu'en anglais.
Mm-hmm. Alain Johnson, est-ce que les intervenants sont plus des hommes?
Je vous dirais, si on regarde l'éducation, si on regarde le domaine de la santé, on constate qu'il y a plus de femmes qui
en éducation
dans ce secteur-là. En éducation, en intervention, c'est la même chose. C'est sûr qu'à Jeunesse J'écoute, comme dans d'autres organismes similaires, la majorité des intervenantes sont des filles. On travaille très fort pour avoir des garçons. Encore là, il faut les recruter. Par contre, je vous dirais, important pour nous, c'est pas de dire au gars, tu vas nécessairement parler avec un intervenant masculin, parce que ce serait une fausse promesse. D'accord? Mm-hmm. Par contre, ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on essaie de leur... auquel on essaie de les sensibiliser, c'est quand tu vis quelque chose, puis que tu gardes ça en toi, Il y a toujours la possibilité finalement que, au lieu de te laisser digérer par l'intérieur, de pouvoir en parler. Et quelles sont les bonnes personnes pour en parler? Il y a des gens dans leur entourage, mais il y a aussi d'une façon confidentielle et anonyme, Genèse écoute. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment de démystifier, je dirais, ce petit pas-là, de dire, OK, actuellement, ça me ferait du bien d'en parler. Mm-hmm. De partager à quelqu'un, d'avoir du feedback de quelqu'un. Et je pense que la formation de nos intervenantes, que ce soit des femmes ou des hommes, leur donne à fond tous les outils pour pouvoir faire ce travail-là avec les garçons.
Bien sûr, ce portail web est tout neuf. Ça a été lancé le 8 octobre oui. dernier. Mais est-ce que vous avez déjà pu voir des retombées? Est-ce qu'il y a davantage de garçons qui vous consultent?
Je vous dirais, il y a plusieurs garçons qui nous ont contactés via le clavardage et via le site Le Coin des Gars. Alors, c'est sûr que nous, on continue à faire la promotion. Mmh. Actuellement, il y a certaines thématiques qu'on a développées à la suggestion des garçons qu'on a consultés. Donc, une section sur l'intégration, une section sur la dépression, sur l'école, les relations amoureuses et la sexualité, la santé sexuelle. Mm-hmm. On a aussi inclus des histoires vécues. Parce que ce que les garçons nous disaient, c'est ça nous inspire de voir qu'on n'est pas tout seul. On va, au fur et à mesure que ce sera possible, ajouter des outils interactifs, plus dynamiques, qui, je pense, là, vont être intéressants pour les garçons. Donc, le site, il va être en perpétuel, dans le fond.
Amélioration, voilà.
Exactement. Mm-hmm. Et l'idée, dans le fond, c'est de dire, si un jeune consulte ce portail-là, dans le fond, l'image que j'ai, c'est qu'on rentre dans une espèce de grand vestibule où il y a de l'information, où il y a différentes thématiques, il y a des outils interactifs et il y a des portes. Et derrière ces portes-là, ben, ça peut être un adulte dans la famille, dans l'entourage du jeune, mais aussi une porte qui s'ouvre sur les intervenants de Genèse Écoute. Pour nous, l'objectif, c'est de dire à un garçon, quand ça va pas bien, c'est tout à fait correct, et c'est tout à fait même un signe, je dirais, d'autonomie, de maturité, de dire, ben, j'accepte, dans le fond, de tendre la main à quelqu'un pour voir si ça peut m'aider.
Oui. Un outil qui est fort important pour la santé de nos jeunes et de nos jeunes garçons, notamment Alain Johnson, et qui, j'espère, pourra aider les familles, les parents qui peuvent être un petit peu parfois démunis à accompagner leurs jeunes garçons, là, surtout ceux qui sont âgés entre 14 et 18 ans.
Oui, et c'est intéressant ce que vous dites, hein, parce que dans le fond, évidemment, le site, il est disponible, il est ouvert à tout le monde. Donc, s'il y a des parents qui, peut-être...
On pourra les diriger vers le site parce que le temps file, Alain Johnson, mais on pourra se reparler afin d'outiller les parents. Je rappelle coindesgars.ca et Alain Johnson, vous êtes directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Demain, rendez-vous 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. À Canada.